Dance Music Voltage. Voltage Dance Music.
Bienvenue sur Voltage. Je suis une intelligence artificielle. Chaque nuit, nous passons un moment ensemble à découvrir la musique mais aussi les meilleurs moments d'interview de la radio. Comme ce moment.
Dans Alibi.com 2, emmené par la fameuse bande à Fifi, le personnage de Philippe Lachaud ne se résout pas à présenter ses parents à sa future femme. Il faut dire que sa mère, jouée par Arielle Dombal, est une actrice de films de charme et que son père, joué par Gérard Jugnot, est un escroc à la petite semaine. Nous avons rencontré ce couple de cinéma atypique.
Arielle, quand Philippe Lachaud vous a contacté pour jouer notamment une actrice de charme, vous avez immédiatement dit oui ?
Non. J'ai pas immédiatement dit oui et je me suis laissée convaincre par mon agent. Et puis après, j'ai lu le scénario et après, on m'a dit que mon partenaire et mari serait Gérard.
Et, elle est folle de moi.
Et voilà, et alors tout le package m'a paru très amusant. Je me suis dit oui, allons-y.
Et vous, Gérard, pourquoi est-ce que vous pensez que Philippe Lachaud vous ait choisi pour être son père de cinéma?
Parce que je suis son vrai père.
C'est ça.
Biologique. Non, moi, Fifi, c'est devenu un... Enfin, je suis un peu leur parrain, parce que j'étais dans le premier. Je les ai un peu aidés au début, et puis maintenant, ils n'ont pas besoin de moi. Mais j'étais très fier, parce que j'ai raté le premier, puisque je devais être son beau-père. Et puis, je n'étais pas libre, donc ils ont choisi... c'était très bien Didier. Et donc là, le fait que je revienne dans la bande, dans la bouche, ça m'a ravi. J'étais très content de que ce soit son vrai père. Parce que j'ai un sentiment un peu quasi filial avec tous ces mômes.
Oui, parce qu'effectivement, on ne peut pas s'empêcher de penser à la symbolique du passage de relais un petit peu.
Oui, c'est vrai qu'ils sont, très... Ils ont été aussi biberonnés avec le Splendide, avec d'autres groupes comme ça. Donc c'est assez touchant qu'ils nous fassent appel à nous encore, que ce soit Christian dans Babysitting 2 ou moi ou Didier. Donc c'est ça qui est formidable chez ces jeunes, c'est que...
Ben, ils ont des grands modèles et ils les prennent,
oui. On n'est pas des ringards pour eux, on n'est pas mis au rancard ni en retraite. Et donc ça, c'est très, très agréable.
Et justement, comment est-ce que vous évoluez, vous, tous les deux, dans la bande à Fifi?
On se pose pas la question. Vous savez, tous les films sont des collectivités. On entre dans un petit cosmos qui a ses règles, son genre, son style, etc. Et ce qu'il y a de formidable avec la bande à Fifi, c'est que c'est une vraie bande, et ça, c'est assez rare. C'est comme dit Gérard, à part le Splendide, dans la comédie en France, il y a eu Molière. Mais après, c'est vrai.
Il y a toujours des bandes, comme les Inconnus.
Voilà, des mini-bandes. Mais le Splendide, c'était aussi des acteurs réalisateurs, c'était une entité.
Moi, tu emploies l'imparfait.
C'était parce que vous êtes un peu dispersé. Vous faites tous vos propres films. Et d'ailleurs, j'ai été dirigée, par Clavier, puis j'ai joué avec Thierry Lhermitte, et puis avec toi. Mmh. Mais vous n'étiez pas ensemble quand
non, c'est vrai qu'ils continuent à être ensemble, mmh. Ils font les films des uns et des autres. Non, c'est tout à fait formidable, je trouve. Ça fait vraiment plaisir. Et surtout, c'est très joyeux, bienveillant et très travaillé. Moi, c'est ça que j'apprécie beaucoup chez eux, c'est que c'est des bosseurs, et que c'est pas des feignasses qui croient que ça
voilà,
se fait comme ça.
Voilà. Et tout est très, très orchestré au millimètre, et les choses sont aussi des cascades techniques et tout ça très, très maîtrisées. C'est pas facile du tout, tous ces trucs-là.
Mais justement, comment est-ce qu'on fabrique un couple de cinéma? Quelle histoire est-ce qu'on imagine
derrière? Il s'est fait spontanément, parce qu'on a juste touché, je vous dis, on est les Bonnie and Clyde de la loose. Et alors, on s'aime, et puis on se bagarre, et puis on a mille choses à se reprocher, mais tout ça, c'est de l'écume.
Non, mais en plus, Ariette, c'est une super actrice, et en plus... suffisamment perché pour oser faire plein de choses, et c'est ça qui est très amusant. Je la connais bien maintenant grâce aux grosses têtes.
Oui, on est partenaires aux grosses têtes.
Je l'entends,
on est camarades.
On rigole beaucoup parce qu'elle peut dire n'importe quoi avec un aplomb et une vérité et un charme fou. Donc c'est vrai que j'étais absolument ravi, puis surtout pour le rôle qui était quand même un peu limite, puisque c'est une ex, enfin elle continue encore un peu des films un peu roses, même rose foncé. Hein. Mais il fallait trouver quelqu'un qui est justement de la classe, de la fantaisie, pour pas que ça soit quelque chose de glauque, de grossier ou de vulgaire. Et là, elle fait tout passer. Elle a cette hauteur d'esprit, cette folie, cette folie douce, que je trouve tout à fait remarquable et très agréable. Et en plus, c'est quelqu'un de tellement gentil. C'est très rare dans ce métier, les gens bienveillants et gentils.
Non, mais avec Gérard, on est déjà aux grosses têtes, on se connaît bizarrement, comme à l'école. C'est des camarades, on est tout le temps en train de se fighter, parce que c'est le principe. Mais je sais quelle finesse, l'image de Gérard est une chose, et puis l'être qui est Gérard est une autre chose. Et c'est quelqu'un de tellement cultivé, qui s'intéresse tellement aux autres, qui s'intéresse aux pièces, qui lit de la littérature, qui connaît l'histoire. Enfin voilà, c'est pas le gros gagman. Voilà. Et donc,
ce que tu dis, c'est juste les grossesses, c'est l'école. C'est l'école avec que des cancres et des dissipés.
Voilà.
Mais à l'école, même si tu es dissipé, tu peux être travailleur et
voilà, exactement. Et donc, quand on parle des grosses têtes, mais quand Gérard est là, on sait que, oh là là, on a intérêt à être rapide, parce qu'en histoire et en littérature et au cinéma, il est assez incollable.
Et donc, elle répond très bien, mais à des questions qu'on ne pose pas. Elle a quand même l'art de récupérer un truc en donnant une réponse.
C'est vrai.
Qu'on n'a pas posées.
Je dois avouer modestement. Mais donc quand Fifi m'a dit mais oui, si vous allez être un couple, ça va marcher. En effet, ça m'a paru totalement évident.
Parce qu'en plus, dans le film, c'est les deux personnages qui ont un petit peu de sensibilité, qui apportent une touche d'humanité sur la fin, que je trouve très très jolie, qu'on a eu beaucoup de plaisir à jouer tous les deux.
Oui.
Parce que les parents situation... blessés, quand même, parce que c'est terrible, un fils qui a honte de ses parents.
On est des parias, on a honte de nous. On est rejetés.
On devrait être fiers d'avoir un père escroc et une mère.
Voilà. Et une mère dans le X, il devrait l'assumer, mais non.
Et donc vous connaissiez, comme vous le dites, avant de tourner ensemble, mais est-ce que l'un et l'autre, vous avez découvert quelque chose d'insoupçonné sur le tournage, pendant le tournage, pendant le processus de...
Toujours, on découvre la subtilité, la finesse de jeu, Et puis Gérard, évidemment, dirige des films, et moi aussi, donc on est des êtres qui observons. L'un comme l'autre, on n'est pas dans notre caravane, dans notre tour d'ivoire.
Mais non, mais ce qui est formidable chez Ariel, c'est qu'elle a fait des films très underground, des très très bizarres, très barrés, mais en même temps aussi des grandes comédies. Oui. Et là, je trouve c'est formidable. Je trouve ça épatant, comme Nathalie Baye, qui a fait beaucoup de films très sérieux, césarisable et tout, d'arriver à plonger dans un univers de comédie. C'est très... Moi, j'adore ça. Je trouve que c'est bien quand ces barrières tombent.
Voilà, c'est ça.
Et l'un et l'autre, de manière générale, vous êtes davantage attiré par les rôles de personnages roublards ou blindés de défauts, ou au contraire des personnages qui font qu'on a envie de vous prendre dans nos bras quand on vous croise dans la rue?
Gérard, les gens ont envie de le prendre dans les bras, beaucoup. et notamment depuis Les Choristes. Ça a été aussi une chose très marquante. Parce que, en effet, il faut être très fin et très intelligent pour être un grand acteur comique. Et il y a toujours, et il faut surtout avoir été au fond de la tragédie pour être bon. Et Gérard a ça.
Parce qu'il n'y a pas de comédie sans drame. La comédie, elle repose sur le fait qu'il y a du drame. Le rire, c'est une sorte de libération, de disjoncteur à la folie, au malheur du monde. Donc, évidemment, on touche très fort le drame. Mais pour revenir à votre question, moi, j'ai joué beaucoup de couillons, beaucoup d'idiots, et comme disait, je sais pas, c'est Bourvil, il faut bien qu'il y ait des idiots pour jouer les imbéciles, mais c'est pas vrai, il faut être très...
Je connaissais pas la phrase.
C'est un truc quand même, il faut de la distance, et mais moi j'ai joué beaucoup de couillons, et j'essaye de les défendre comme un avocat, parce qu'on et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de... J'essaye de mettre de la compassion, quoi. Enfin...
Voilà, mais les gens très drôles sont en général de grands tragédiens, des héros tragiques. D'ailleurs, même Coluche, les gens étaient tout étonnés de le voir jouer Tchao Pantin, mais derrière cette finesse de jeu et de la drôlerie, qui est une chose très subtile à faire. Il y a beaucoup de profondeur, il y a beaucoup de...
Oui, puis il y a beaucoup de blessures. Enfin, j'ai bien, très bien connu Coluche, où il y avait beaucoup de blessures. C'était quelqu'un de très tourmenté, très... Et comme de Funès. Ou... Mais c'est vrai que de Funès, moi, je regrette un peu qu'il ait jamais joué comme Bourvil le faisait, ou comme Coluche a pu le faire, oui. ou de faire les deux rôles. Il n'a jamais voulu se dévoiler. Chris Clavier est un peu comme ça aussi.
Vous pensez que les comiques, de manière générale...
Il n'aime pas montrer ses failles, et c'est, je trouve ça dommage, parce que Christian, il a fait de temps en temps des choses comme ça, où il était plus
vulnérable,
plus vulnérable, et c'était très intéressant. Mais bon, après, les gens font ce qu'ils veulent.
Les comiques, de manière générale, ont une facette sombre. Vous pensez que c'est...
Mais oui, regardez, oui. Ben, Pierre Palma, tous ces gens...
Il y a quelque chose d'un petit peu cassé, d'inquiet, en tout cas. Moi, je me souviens d'une chose très jolie qui m'avait dit. Maurice Drouot, que j'avais rencontré à Kiev, t'imagines, avant la fin de la guerre, qui m'avait observé, et puis c'est à côté Sacha Guitry, tu vois, et qui m'avait dit cette phrase magnifique, qu'il avait dû dire à d'autres comiques, et dit, vous n'avez aucune raison d'être inquiet, mais c'est votre inquiétude qui fait ce que vous êtes. Et je trouve que c'est très très joli comme phrase, et ça définit beaucoup la comédie.
Oui, merci beaucoup.
Vous êtes au cœur de la nuit sur Voltage, avec de la musique à écouter.
And a liquor made me. The mama never tell you how to treat a lady. By this time tomorrow you gon' really hate me. Bet you wish you never played me. You took her in a bed. You got no respect. Why did you expect? Now I burn this house down. To the left, I'ma to the next. I'ma get my sweet revenge. Tell me how you lie so easily. You've been messing with her. Don't miss. Tell me how.
Vous êtes sur Voltage avec moi, une intelligence artificielle. Installez-vous bien pour découvrir les versions longues des meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
L'invité du 10-15.
Crever d'amour pour cette version de David
Mais
Bowie.
Moi j'y arrive aussi. Hein.
Je peux chialer toutes les larmes de mon corps. C'est Supernova qui chante lors de The Voice. Et Supernova, t'es avec nous aujourd'hui, je suis très content de te recevoir.
Salut.
T'as 22 ans, t'es parisienne, donc tu participes à la nouvelle saison de The Voice qui est diffusée en ce moment sur TF1. Ton premier passage c'était au mois de mars. Et donc t'as fait cette reprise de David Bowie.
Tout à fait.
The Man Who Sold the World.
Oui, je dis avec bien. Exactement cet accent, ouais.
Les quatre coachs hein, qui se sont retournés, t'as finalement choisi l'équipe de Zazie.
Ouais.
Et on va voir plein de choses avec toi. Les coulisses de The Voice, comment on fait pour participer à l'émission? Tu sais, tous les petits secrets un peu qu'on voit pas forcément à la télé.
Ok.
Tu nous promets de dire la vérité, rien que la vérité?
Rien que la vérité.
On revient dans un instant avec toi, juste avant. Voici Kalema sur Voltage.
L'invité du 10-15.
En fait, moi, je viens de penser à un truc, c'est un peu ton moment aujourd'hui.
Bah oui.
Mais toi qui me casses les oreilles à longueur de journée, là, dès que le micro est éteint.
Mais moi, j'adore chanter. Malheureusement, je sais pas aussi bien chanter que toi, Supernova, mais c'est vrai que j'adore chanter.
Supernova est notre invité aujourd'hui sur Voltage, candidate de The Voice. T'es parisienne, t'as 22 ans. On va voir plein de choses avec toi sur The Voice, un petit peu les coulisses de l'émission. Mais d'abord, je voulais te demander comment on fait pour intégrer The Voice.
Il y a différentes manières de participer à The Voice. Moi j'ai été contactée via les réseaux sociaux. Je venais de faire mon compte Insta, c'était il y a 2 ans.
Ok.
J'avais posté 2 vidéos et j'ai été DM par
Bruno Barberès, c'est ça?
Non, pas directement. Il y a des assistants et des personnes qui travaillent au casting aussi.
Ok, pour expliquer, en fait Bruno Barberès, c'est le, si je dis pas de bêtises, c'est le directeur de casting.
Ouais, c'est directeur de casting.
Et donc en fait maintenant sur The Voice, avant à l'ancienne, tu sais, même pour la nouvelle star, pour plein d'émissions, on pouvait aller faire des castings géants en plein milieu.
Oui,
de...
Oui, je me rappelle des images, t'avais des files de fou d'une heure et demie et t'avais des numéros pour le casting. Ça existe encore ça?
Bah, je sais pas.
Je sais pas non plus, parce que c'est pas comme ça que... Toi t'as été démarché via ton compte Instagram en fait. En fait ouais, il y a une équipe de casting qui s'occupe aussi de chercher les candidats sur les réseaux sociaux. Donc j'ai été contactée. J'ai passé, mais en fait à ce moment-là, les castings étaient presque terminés, enfin ils étaient terminés d'ailleurs, donc j'ai pas passé toutes les étapes des auditions cette année-là.
D'accord. Okay.
J'ai fait les répétitions en plateau, et en fait la veille de ma journée de tournage, on m'a appelé pour me dire que ce serait pas cette année-là.
Oh putain.
Et donc, mais je suis passée seulement cette année, ouais. Quand t'arrives dans The Voice, t'arrives pas genre juste le jour de l'audition à l'aveugle, il y a des choses avant.
Ouais. Et du coup cette année, j'ai vraiment passé les étapes. Avant les auditions à l'aveugle.
Et donc combien d'étapes en tout? À partir du moment où t'es repéré, il y a combien d'étapes avant d'être sélectionné pour faire l'audition à l'aveugle?
Alors ça dépend. Moi j'ai pas fait l'étape du Lunarossa, mais en général par exemple
c'est... Du quoi?
Du Lunarossa, c'est un studio, pardon. Oui, c'est le studio Lunarossa, donc c'est un studio où c'est la première étape des auditions.
D'accord.
Et c'est la plus éliminatoire en gros. Et ensuite, attendez, j'ai oublié. Ouais, en fait, je crois qu'il y en a 3 ou 4. Non mais vraiment, oui.
Ouais.
Ouais, il y en a 3 ou 4.
Et à chaque fois, vous êtes de moins en moins nombreux.
C'est ça. Et ensuite, il y a une audition finale en condition. Et ensuite, il y a la répétition en plateau, qui n'est pas censée être éliminatoire, mais bon, moi j'avais été éliminée à cette étape-là.
Ah non.
C'est qu'elle l'est quand même.
Mais qui c'est qui choisit du coup? C'est pas du tout les jurys de The Voice à ce moment-là.
Ah
c'est
non,
vraiment...
pas du tout. Okay. Ouais, c'est la prod. C'est donc il y a le producteur, le directeur de casting et le directeur artistique.
Déjà, tu m'apprends un truc, parce que certes, je savais qu'on pouvait être repéré sur les réseaux sociaux, ça je l'avais déjà entendu, mais je pensais qu'ils allaient directement aux auditions à l'aveugle. Non, non,
ah non, mais pas du tout, c'est très très long. Et c'est sur plusieurs mois en fait. Et donc parfois, on arrive à la dernière étape, ça fait 6 mois qu'on est dans le parcours et on y est presque, et puis en fait, ça se fait pas.
C'est chaud quand même.
Ça me fait penser à Koh-Lanta, mais le Koh-Lanta de la chanson Au revoir.
Non, mais c'est pour ça que c'est déjà en fait une première victoire d'aller jusqu'aux auditions à l'aveugle en fait.
Bon, toi c'est bon, c'est fait, audition à l'aveugle, t'as été prise donc dans l'équipe de Zazie, les 4 coachs qui se sont retournés.
Oui.
J'ai une petite question, comment est-ce que à un moment, quand tu arrives là sur le plateau de The Voice, est-ce que c'est vrai qu'à aucun moment tu croises les coachs?
Oui, c'est vrai.
Mais comment ils font? Parce qu'il y a tellement de monde qui marche partout.
Mais alors déjà, c'est toute une organisation. On n'est jamais seul. Il y a toujours
Il y a une très grande équipe de coordination qui s'occupe de nous. Donc en fait, c'est comme si on avait des nounous avec nous, constamment, qui nous disent d'aller à un point A, à un point B. Donc là, c'est le make-up, là, c'est interview, là, c'est photo. C'est...
Mais même,
donc,
par exemple, tu vas aller aux toilettes, on t'accompagne pour être sûr que tu croises pas les coachs.
C'est presque ça.
Ah ouais, quand même. Hein.
Et donc, il y a même des alertes coachs. Donc les journées de tournage, pour pas qu'on les croise. Et donc, enfin, il n'y a pas d'alarme. Hein,
c'est alerte,
juste...
alerte.
Non, mais ils disent ça comme ça, mais il se passe rien de spécial. C'est juste qu'en fait, par exemple, au moment où il y a un coach qui passe dans les couloirs, on peut pas aller aux toilettes. Parce que, faut pas qu'on croise.
Ah, faut pas être malade ce jour-là. Attention, personne ne va aux toilettes.
Non, mais si, c'est pas.
Non, mais c'est un
régime totalitaire. Peu,
c'est rigolo.
Mais ouais.
Donc ça, c'est
vrai. Pour qu'on les croise pas.
Donc ça, c'est vraiment archi pas pipoté. C'est-à-dire que vraiment, à aucun moment avant de passer en plateau, avant que le coach se retourne, personne s'est croisé.
Ah ouais, moi j'ai vu Zazie qu'à des moments où c'était filmé en fait.
D'accord.
J'aime bien savoir tous ces petits trucs, tu sais, un peu les petits secrets en coulisses de ce qu'on voit pas à la télé. On va revenir avec toi par exemple sur comment ça se passe les répétitions, comment est-ce que vous choisissez les musiques. On va reparler de tout ça avec toi jusqu'à 13h sur Voltage Supernova. Avant ça, plein de bons sons qui arrivent sur la radio parisienne à Paris, partout en Ile-de-France. Vendredi 21 avril, Swedish House Mafia avec The Weeknd, Most to a Flame sur Voltage.
L'invité du 10-15.
En fait, c'est bon, je sais à qui tu me fais penser. Et tu sais très bien de qui je parle.
Oui, bah du coup, j'ai compris par rapport à...
C'est dans le cinquième élément, la cantatrice.
Oui.
C'est ça qu'on dit, la cantatrice?
Oui, tout à fait.
C'est la même voix.
C'est vrai que t'as un peu une voix extraterrestre en fait.
Bien, je crois.
Je crois que c'est un compliment.
Oui, un compliment.
Elle vient même pas de cette planète tellement elle est belle ta voix.
Supernova est notre invitée aujourd'hui sur Voltage, candidate de The Voice avec sur TF1. On l'a vu, j'allais dire avec Supernova. Tu viens de Paris, t'as 22 ans, on a vu plein de choses déjà avec toi. Comment ça se passe un petit peu les auditions à l'aveugle? Comment on peut faire The Voice?
Oui.
Comment ça se passe en coulisses? Une fois que t'es passé, machin, t'as fait l'audition à l'aveugle, t'es sélectionné, t'as choisi l'équipe, comment ça se passe ensuite pour répéter les musiques? Est-ce que vous voyez souvent les coachs?
Avant les battles, j'ai pas bien compris la question.
Quand tu vois, juste avant de faire ta battle, du coup, après, t'as les auditions à l'aveugle.
C'est dans l'ordre, t'as l'audition à l'aveugle, tu choisis ton jury, et quand tu regardes la télévision, ensuite, il y a les battles, et tu vois les coachs qui arrivent et qui vont driver un petit peu leurs équipes. Est-ce que on les voit souvent? Est-ce qu'on les voit qu'une fois? Combien de fois t'as vu Zazie?
J'ai vu Zazie deux fois avant les battles. Moi, à chaque fois, c'était filmé, du coup.
Okay.
Ouais. Y a une première répétition, celle où on est près du piano.
Oui,
voilà. Il y a celle-ci, et ensuite il y a une répétition en plateau qui est aussi filmée.
Ok.
La première, du coup, répétition dure entre 20 et 30 minutes, et la deuxième, une vingtaine de minutes, un truc comme ça.
C'est assez court, en fait.
C'est assez court, ouais. Et
c'est Zazie qui te drive, du coup, à chaque fois quand vous devez répéter.
Oui, c'est ça, mais donc entre les répétitions, on a d'autres coachs en fait.
Okay.
Ah, c'est pas Zazie, vous avez d'autres répétitions avec d'autres coachs.
Oui, voilà, la plupart des répétitions c'est avec d'autres coachs.
D'accord.
Alors moi je suis allé voir le plateau de The Voice il y a un an, parce qu'on est Voltage, les Indes Radio, on est partenaire de The Voice. Je suis allé interviewer un petit peu les candidats finalistes. Il y a un truc qui m'a choqué, la première fois que je suis arrivé sur le plateau de The Voice, que je l'ai vu en vrai, c'est quoi toi le truc qui t'a le plus marqué?
Moi c'est la taille du plateau.
Voilà, tout pareil. C'est incroyable. Tu le vois comment toi le plateau de The Voice?
Bon, il est grand, ouais.
Il est grand?
Attends, ça paraît grand, la salle grande aussi, non? C'est pas grand?
Moi, il m'a semblé beaucoup plus petit qu'à la télé en fait. Je pense que c'est vraiment un effet d'optique.
Et puis la manière, un objectif grand angle.
C'est ce que j'allais dire.
C'est la manière dont c'est filmé, je pense.
Parce que vraiment, le plateau est tout petit. Mais quand je dis tout petit, c'est la taille de l'open space, hein.
D'accord. Ah oui.
En vrai,
alors en immobilier, je vais vous dire, ça fait un peu un 30 mètres carrés en appartement, quoi. 30-40 mètres carrés en appartement.
Ouais, bon, ok, c'est un petit peu plus grand, j'ai un peu forcé, j'avoue. On va voir un petit peu avec toi si tes projets pour la suite de l'émission, comment ça se passe, qu'est-ce que t'as envie de faire. Juste avant, Matt Pokora sur Voltage. Le morceau se mélanger à Paris, partout en Ile-de-France, et le week-end qui démarre ce soir. Merci à vous de nous avoir choisis sur Voltage.
Puisque les gens se voyaient autrement.
L'invité du 10-15.
Supernova est notre invité aujourd'hui sur Voltage, la radio parisienne, candidate de The Voice. Supernova, on avait des questions à te poser, Maud, sur l'intérêt de faire The Voice en fait.
Oui, en fait, moi c'est ça que je me pose comme artiste, parce que comme question, quand tu es une artiste, on va y arriver, décidément vendredi c'est compliqué. Tu nous expliquais que en fait ils t'ont démarché via ton compte Instagram.
Oui.
T'aurais pu peut-être percer via les réseaux. Pourquoi faire The Voice et qu'est-ce que ça apporte en tant qu'artiste? Est-ce que vraiment ça t'apporte une visibilité que tu n'aurais pas trouvée sur des plateformes comme Insta ou TikTok, etc.?
Oui, je pense. Sachant que, bon, déjà, pour entre guillemets percer sur les réseaux sociaux, ça nécessite d'être quand même assez régulier. Aussi participer à des concours de chant sur Instagram et tout, ce que je ne faisais pas à ce moment-là et ce que je ne fais pas encore. Mais voilà, j'ai un peu de mal à être... Je suis de plus en plus régulière sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que je suis pas super à l'aise non plus. Je fais de mon mieux. Mais donc ouais, pour moi, ça avait quand même un intérêt de participer à The Voice, parce que c'est quand même
c'est
des millions de téléspectateurs quand même. Donc, et puis c'est pas le même public que les réseaux sociaux aussi. Donc ça permet de toucher un public plus large.
Oui, parce que ouais, c'est rigolo, tu dis que t'es pas à l'aise sur les réseaux, mais t'es à l'aise à la télé, qui me paraît encore plus fou.
J'étais pas très à l'aise à la télé non plus, hein. Mais en fait, je fais de mon mieux, quoi. Je tente, et voilà.
C'est ce que tu disais juste avant à la télé, quand t'as fait l'audition à l'aveugle. Tu disais que tu flippais en fait de devoir chanter devant des gens c'était la première fois en plus.
Oui.
Bah, première fois que tu chantais devant.
J'ai commencé
devant
à faire des petites scènes et à me produire devant quelques personnes. Okay. À la suite de... Bah, en fait, quand The Voice m'a contacté pour la première fois. Parce que j'ai passé les auditions pour l'année d'avant, et donc j'ai cru que j'allais faire The Voice, et ensuite, puisqu'ils m'ont dit qu'ils me rappelleraient l'année d'après, je me suis préparée psychologiquement à faire The Voice, donc j'ai eu un an pour me préparer, donc j'ai commencé à faire des petites scènes, mais ça n'a rien à voir avec la scène de The Voice. Mais donc j'ai eu un an pour me dire qu'il fallait que je fasse des scènes, parce que sinon ma première scène allait être The Voice.
Mais jamais je pourrais faire ça. Je suis allé voir un jour en plateau comment ça se passe, il y a vraiment 350 personnes qui bossent sur The Voice, qui sont en train de te driver pour savoir où est-ce que tu dois te mettre en place, et tout, la pression que tu dois avoir.
Ouais. Parce que au-delà du fait que je chante pas bien, bon, ouais, ça c'est un premier truc, mais si je devais faire The Voice, en effet, il faut savoir se placer sur un plateau, parce que tu peux pas rester immobile. Au bout d'un moment, il faut qu'il se passe quelque chose visuellement parlant. Il te coach là-dessus
aussi.
Oui,
on est coaché. C'est pour ça qu'il y a une répétition en plateau en amont, et donc on a des petites croix sur le sol. On sait où s'arrêter. On a quelqu'un qui nous dit, alors à trois, le mur se lève, tu marches. Tu t'arrêtes là. Tu lèves ton micro.
Mais si, ça me fait penser à Miss France. Tu sais que mine de rien, les répétitions de Miss France, c'est pareil en plateau, elles ont des croix, des choses comme ça. C'est très
presque chorégraphie, ouais.
Oui, c'est ça.
On va parler de tes projets un petit peu pour la suite. J'ai vu que tu avais fait un concert cette semaine dans Paris. Oui. On revient dans un instant sur Voltage. Restez bien par là.
Voltage, l'invité du 10-15.
Ouais, jusqu'à 13h, Supernova est notre invité sur Voltage, la radio parisienne, candidate de The Voice. Supernova, si tu devais faire des petits projets pour la suite là, à côté de The Voice, parce qu'en fait l'émission avec les battles n'a toujours pas été diffusée, on a juste vu ton édition à l'aveugle. À côté, est-ce que tu bosses sur des projets, des concerts, des choses comme ça?
Tout à fait. Ouais. Alors, du coup, j'étais en concert cette semaine.
C'était où?
C'était à l'étage du Gibus, dans le 10e arrondissement.
Ok.
Et j'ai présenté deux titres qui seront dans mon EP.
Ah, ça sort quand? On a la date?
Sûrement fin 2023. Mais alors, je vais sortir mon premier single fin mai, normalement.
Ok, trop bien.
Et voilà, ensuite il y aura des petites surprises.
Ah, cool.
Et trop ça bien. Se trouve, bientôt on va se dire, ouais, moi j'ai connu Supernova avant qu'elle soit une star et tout.
J'espère.
Il y aura peut-être des duos aussi.
Bah, c'est justement ce que j'allais te demander, vu que t'es passé par The Voice, que t'as donc ce poids, ce pouvoir de l'émission. Si tu pouvais faire un duo avec un candidat qui est passé par The Voice, ce serait qui?
Parce que attends, faut dire, il y a vraiment beaucoup de candidats.
Ah bah,
il y a beaucoup de chanteurs aujourd'hui qui ont passé à la radio,
Kenji,
qui ont fait The Voice.
T'as Louane, je crois qu'il y a les frérots qui sont passés aussi.
Il y a Slimane aussi.
Slimane. Ah, j'adore Slimane. Bon, ça serait qui toi?
Alors moi j'aime beaucoup Louane. Mais c'est vrai que j'ai un petit coup de cœur quand même pour Maëlle.
Ah, c'est Maëlle qui a fait l'émission, c'était il y a quoi, il y a...
Bah, en 2018, elle a gagné Maëlle.
Ah ouais, ok, d'accord.
Ouais, moi j'étais au lycée à ce moment-là.
C'est fou ça. Alors que je crois que vous avez le même âge en plus.
Je crois qu'elle est un petit peu plus jeune que moi. Mais
elle a 22
beaucoup.
Ans.
Ouais. Ah bah, ok. Je pensais qu'elle était plus jeune que moi.
Vous avez le même âge, c'est fou.
Je viens d'avoir 23 en fait.
Ah, mais même plus. Alors c'est fou parce que...
Non
mais alors c'est marrant parce que...
Ça veut dire
que c'est trop drôle. Elle a gagné The Voice avant que tu le fasses. Et toi, du coup, tu le fais maintenant et tu l'as regardé à la télé, quoi.
Ouais, mais je sais pas pourquoi, je pensais que...
Bon, je pense que le message est passé, du coup, non?
En tout cas, Maëlle, si tu nous écoutes, tu peux faire un
mail, je t'aime beaucoup.
Voilà.
Merci beaucoup Supernova d'avoir été notre invité sur Voltage. Du coup, on verra comment ça se passe pour toi pour la suite de l'aventure dans les battles.
Oui.
Qui sont diffusés prochainement.
On croise les doigts.
Et puis je te souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup d'être venu sur Voltage, la radio parisienne. On parlait de Maëlle, on l'écoute maintenant. Le morceau Flash à Paris et partout en Ile-de-France.
Je revois le fond.
Bienvenue sur Voltage. Je suis votre intelligence artificielle et je vous propose d'écouter les meilleurs hits du moment.
I wanna feel the heat, I wanna own the night. I wanna feel the beat, I wanna dance tonight. I wanna lose myself, I wanna come alive. I wanna feel the love.
wanna come alive. I wanna feel the love go into overdrive.
Sur Voltage, nous passons les nuits ensemble. Et on découvre ensemble nos podcasts. Comme celui-ci.
Mike du compte Instagram, les secrets Disney sur TikTok. Alors, le problème, je vais te dire ce que c'est. Mm-hmm. C'est que je sais pas comment on va faire pour te libérer avant la fin de la journée.
Ah, il y a trop de choses à dire sur Disneyland Paris.
50 000 questions sur Disneyland Paris.
Tu vois, ça a l'habitude.
Je suis trop content de te recevoir. Il y a plus de 220 000 personnes qui te suivent sur TikTok pour savoir un petit peu tous les secrets du parc Disneyland Paris, les bons plans, les astuces, les nouveautés. Je sais qu'il y a notamment le parc sur la Reine des Neiges qui va pas tarder à ouvrir.
Ouais.
Il y a l'Avengers Campus qui vient d'ouvrir. Lui, les bons plans pour aller à Disney pour pas trop cher. Tiens, d'ailleurs, comment ça se fait? Comment tu as eu envie de te lancer sur TikTok?
L'ancien travail que j'avais, je travaillais dans une boutique déjà, mais j'avais une option. J'étais guide dans le parc. Et on a eu le confinement, un petit moment de off, on va pas se mentir, c'était très très long. Et je me suis dit, j'ai l'habitude de me balader avec les gens dans le parc, de leur expliquer comment ça marche, les attractions, les histoires, tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas créer quelque chose qui peut partager la passion que j'ai de base. Et surtout donner un côté accessible à tout le monde. Parce qu'en fait, le souci que je trouvais des vidéos à l'époque de tout ce qui était Disney, tout ça, c'est que c'était trop complexe. Et je me suis dit, je veux toucher une majorité de personnes qui n'y vont pas forcément tous les jours et qui ne sont pas ultra fans de Disney et parler plus simplement avec les gens. Voilà.
Moi, j'y suis allé plusieurs fois à Disneyland Paris. Maud, je sais pas combien de fois tu y as été.
Oh, 3-4 fois aussi, ouais.
Je pensais connaître pas mal de choses sur le parc, hein, déjà, vraiment. J'avais pas mal de petites astuces et ça. Mais alors, sur ton compte Instagram, j'ai appris vraiment des trucs de fou, machin. les secrets qu'il y a dans la tour de la terreur, la petite fille qui peut te parler, c'est un truc de fou. Tu bosses chez Disney depuis 2015, ça va faire donc 7 ans, bientôt, au mois de mai, il me semble.
Au mois de mai, ouais.
Moi je bosse chez Disney, j'ai envie de bosser chez Disney, comment ça se passe? Comment on se fait embaucher à Disneyland Paris?
Eh ben écoute, déjà il faut aller sur le site Disneyland Careers, en fait t'as My Disney Careers, tu vas dessus, tu peux postuler directement. Alors quelquefois ils font des sessions, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais quelquefois ils font des sessions de recrutement dans des villes bien particulières. Ils proposent par exemple une session à Paris ou à l'étranger, possiblement. Là tu fais un entretien. Alors moi à l'époque où je suis passé c'était en binôme, je sais pas si c'est encore comme ça maintenant, mais à l'époque on passait ensemble. Et t'as une petite session, on te pose des questions, un peu comme dans tous les entretiens.
Est-ce que c'est obligatoire de parler plusieurs langues?
C'est pas obligatoire, mais...
Vivement recommandé.
Bah, ça dépend, ça dépend. En fait, ça dépend quel boulot tu fais. Si tu travailles, on va dire, en backstage, où tu n'as pas forcément besoin de communiquer avec un métier où tu n'as pas besoin de parler plusieurs langues, ça peut passer. Après, c'est pas obligatoire de travailler on stage et de parler plusieurs langues, mais c'est quand même fortement recommandé, on va dire.
Et est-ce que c'est obligatoire d'aimer Mickey, du coup?
Moi, c'est mon boss, je l'aime bien. C'est mon pote. Il est sympa.
Je voulais qu'on revienne là-dessus, tiens. Disney, c'est souvent très cher. On va pas se mentir, hein, ça coûte quand même assez cher pour prendre sa place. Encore plus quand tu veux y aller en famille.
Ouais.
C'est quoi toi tes bons plans pour payer son entrée moins chère à Disney, manger avec un petit budget là-bas, sur place?
Alors en fait t'as plusieurs possibilités. Ce qui est sur le site directement, sur le site de Disney, tu peux regarder les différents tarifs proposés, par exemple au billet un jour un parc, tu peux trouver le prix. Et t'as des codes couleurs. Le vert, si je dis pas de bêtises, c'est celui qui est le moins cher. Alors évidemment quand t'arrives dans des grandes périodes comme Noël, tout ça, tu risques de pas trouver ce genre de promotion. Mais hors saison, janvier, février par exemple, tu peux trouver des tarifs très intéressants pour le parc. Tout ce qui est au niveau de la consommation, donc pour manger, tu peux avec un budget on va dire entre 15 et 20 euros trouver un fast food qui est l'équivalent de ce que tu peux avoir partout à l'extérieur du parc. Moi je dirais le plus simple aussi c'est de potentiellement anticiper d'aller manger soit plus tôt soit plus tard en dehors des horaires où les gens mangent, donc c'est-à-dire éviter midi quoi, histoire qu'il n'y ait pas 300 000 personnes qui attendent pour manger un burger. Mais oui, si tu peux essayer de limiter ta consommation et ta dépense sur la journée si tu gères bien et tu anticipes ta venue. Ouais.
Alors justement, tu le disais, beaucoup de monde pour manger, beaucoup de monde dans le parc aussi.
En général, oui.
Comment on fait? C'est quel moment de l'année où on peut venir, où il y a pas trop de monde, on va dire.
Bah, comme je disais tout à l'heure, hors saison, je pense que janvier, février, c'est peut-être un peu plus calme. Alors, il faut prendre en compte que si tu viens avec ta famille et que tu veux voir, par exemple, tout ce qui est spectacle de Noël, tout ça, bah, évidemment, tu vas vouloir venir pendant les vacances, pendant la magie.
Pendant la foule.
Exactement. Pendant les jours fériés, pendant les week-ends. Donc, du coup, évidemment, tu auras toujours un peu plus de monde à ce moment-là, mais tu auras une offre qui sera différente que celle que tu pourras avoir en début d'année, par exemple. Par contre, je pense que le mieux, c'est, imaginons que tu es un groupe d'adolescents, tu veux venir juste faire des gros coasters, des choses comme ça, vraiment t'amuser, attraction, pas de spectacle. Dans ce cas-là, si tu as un petit budget, que tu es une bande de potes, eh ben, le début de l'année, ou les périodes froides, ou les périodes où il fait pas mal de pluie, et en semaine.
Quand tu dis pas trop d'attente aux attractions, c'est combien de temps?
Bah, ça dépend ce que tu veux faire comme attraction. En fait, si tu sélectionnes, bon, imaginons que tu veuilles faire des coasters, comme je disais tout à l'heure, bah, tu peux tomber sur du 15-20 minutes. Wow. Sur,
Oh, ça va.
Oui, non, c'est plus que raisonnable.
Franchement, c'est plus que raisonnable. Hein. J'ai attendu 100 minutes à une attraction à Disney.
Ouais, ouais,
ouais,
je...
ouais, ouais, c'est normal. Ouais. 100 minutes, c'est pas mal.
On dit victime de son succès.
Et le monde de Nemo, typiquement, ça peut être combien de temps
Je sais pas. Je pense que le plus rapide que j'ai pu voir, ça doit être soit entre 20 et 30 minutes grand max.
Ah ouais, parce que d'habitude, c'est quoi? C'est du 70 minutes en journée, des trucs comme ça.
C'est un certain temps.
Le monde de Nemo, juste pour mettre...
Attends, mais juste, on peut pas attendre moins de 20 minutes. Ça n'arrive jamais.
Bon, il y a certainement des moments dans l'année où oui, tu peux attendre moins de 20 minutes, mais là, je te donne à peu près une moyenne, quoi, on va dire.
D'ailleurs, l'attraction Le monde de Nemo, qui est donc dans le parc Disneyland Studio.
Oui.
Qui est l'attraction la plus traître du monde. À savoir que tu arrives devant, tu dis ok, bon, c'est tout mignon, machin, c'est le monde de Nemo, ça va être sympa.
Ouais.
Pas du tout, vraiment pas du tout.
En fait, il y a un petit repère qui est super intéressant, c'est à l'entrée de l'attraction, si tu regardes sur la gauche, t'as une petite figurine d'une tortue qui est en train de tourner dans tous les sens. Et en fait, c'est exactement ce que tu vas faire dans l'attraction.
Oui, enfin, ça, faut le savoir.
Sauf que personne le voit.
Faut le savoir que ça représente l'attraction, ça.
Clairement.
On voulait absolument parler avec toi, Mike, de l'ouverture du nouveau parc, la nouvelle partie du parc sur la Reine des Neiges.
Oui.
Alors, ça sera, si je dis pas de bêtises, côté Disneyland Studio.
C'est ça, ouais.
Un petit peu plus loin que Disneyland Studio. C'est le prolongement du parc.
Exactement.
En gros.
C'est ça, c'est un prolongement du parc. Ouais.
Est-ce que ce sera le même parc? Moi, c'est ça que je voulais savoir, ou c'est un parc à part?
Non, ce sera le même parc. Ça fait partie des Walt Disney Studios.
Ah, ok.
Donc, à l'instar de ce qui a été fait pour l'Avengers Campus, finalement.
Exactement, ouais, c'est un prolongement. Il va avoir un agrandissement, ça va popper.
Alors, je sais qu'on peut pas dire trop de choses.
Je
sur
peux
ce
pas
parc,
dire trop de choses.
Mais j'imagine que ça va être immense. J'ai cru voir des articles passer sur internet comme quoi ça va être très très grand.
Je pense que ça va être impressionnant, ouais.
Il y a un lac. Ça, on peut le dire. Il y a un château. Château de la Reine des Neiges.
On peut pas le dire.
Ah, on peut pas le dire. Okay.
Oui.
Bon, écoute, ça semble un petit peu évident quand même.
En vrai, je crois qu'on voit les travaux. Alors, peut-être que tu pourras pas me confirmer, mais de ce que j'ai compris, dans Walt Disney Studio, t'as une espèce d'attraction à côté de la tour de la terreur des parachutes.
Ouais.
Et quand t'es en haut des parachutes, tu vois les travaux qui ont commencé.
Ouais, si t'as des bons yeux, c'est pour moi qui l'ai dit.
Et je vais vous faire une petite confidence aussi. Les travaux en ce moment, ils sont fermés par des palissades en bois, c'est ça, hein?
Ouais.
Si je dis pas de bêtises. J'ai voulu voir, tu sais, par les interstices en bois, quoi ça allait ressembler. Bon, c'est vraiment au stade de travaux en ce moment, donc vraiment.
Ouais, en fait,
il y a vraiment pas grand chose.
Il y a pas d'intérêt à essayer de regarder. Le mieux, ce sera quand ce sera ouvert, ce sera super magique. Avant, il n'y a pas d'intérêt.
Et là, je suis trop pressé aussi de retourner à Disney pour aller faire le nouveau Avengers Campus qui vient d'ouvrir côté, pareil, un Disney Studio. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver là-bas? Moi, je sais pas du tout, j'y suis jamais là encore.
Ok, bah, t'as deux nouvelles attractions.
Okay.
Web, qui est une attraction. En gros, tu es dans un... Pour simplifier, tu es dans une cabine qui bouge un petit peu, qui se déplace, un peu comme si tu avais fait Ratatouille, déjà.
Okay.
Oui.
Donc, si tu es dans le noir, t'as une cabine avec des lunettes aussi qui te permettent de voir des effets de relief. Et t'as des capteurs tout autour de la machine où tu te situes qui te permettent, en faisant le signe connu de Spider-Man, là, plier ses doigts, de tirer sur des cibles, des robots, des Spider-Bots, des petites araignées qui t'attaquent parce que, selon l'histoire, en gros, elles se démultiplient à un niveau exponentiel et du coup, il faut aider Spider-Man à arrêter cette invasion.
D'accord.
Ça me fait un petit peu penser à l'attraction sur Buzz l'éclair aussi,
oui,
où tu te déplaces dans une espèce de petite navette, faut que tu tires sur des cibles.
Ouais,
là, avec plus d'effets, de ce que je comprends, t'as des trucs 3D et puis tu lances comme des toiles d'araignée.
Et si je dis pas de bêtises, il y a aussi une attraction. Alors, ils ont refait Rock'n'Roller Coaster sur Iron Man, c'est ça?
Flight Force, ouais, exactement.
À savoir que Rock'n'Roller Coaster, c'était l'attraction avec le plus de sensations de toutes les attractions Disneyland Paris.
C'est toujours la même chose pour Flight Force, hein,
pas de changement
et tout. Bah, t'as des changements au niveau du thème. Par contre, alors, Alors vraiment, il faut rentrer dans le bâtiment de Friday, qui est magnifique, vraiment, qui est réellement magnifique. La file d'attente, tout ça, ça a changé. L'attraction en elle-même, donc je parle du ride, le ride en lui-même n'a pas changé. Par contre, tout le thème, c'est une rethématisation globale, en fait.
Il y avait un truc trop bien aussi avant dans cette attraction-là, c'est que tu avais des grosses enceintes qui mettaient du Iron Maiden, je crois, non?
Non, Aerosmith.
Aerosmith pour n'importe quoi.
Ah oui, le thème de l'attraction.
Il y a toujours de la musique à fond pendant l'attraction.
Alors t'as toujours les enceintes, par contre t'as plus la musique. T'as plus de métal ou de rock. Maintenant c'est en gros tu as l'histoire qui continue le temps de ton périple, on va dire, et qui t'explique ce qui se passe.
Mike, je pense que c'est le moment d'ouvrir la rubrique de cette émission qu'on va appeler la rubrique fourre-tout, c'est-à-dire des questions qui n'ont aucun rapport les unes entre les autres. Mike du compte Instagram Les Secrets de M, qui connaît absolument tous les secrets de Disneyland Paris. Alors on démarre avec cette question. J'ai un jour dans le parc à Disney ou Disney Studio, ou peut-être même les deux. J'ai pas allumé ton micro.
Ok, c'est mieux.
Qu'est-ce que je dois absolument faire comme attraction?
Tout dépend. Là on parle de toi.
On parle de quelqu'un qui adore faire les manèges dans tous les sens, et ceux qui sont un peu plus soft avec des enfants.
Ok, donc deux catégories. Si tu veux vraiment partir en famille et voir tout ce qui est spectacle, imaginons que tu as des enfants en bas âge et qui vont jusqu'à, on va les dire, 10 ans par exemple.
Ok.
Fantasyland, je pense que c'est le bon démarrage, même s'il va y avoir beaucoup de monde, parce qu'évidemment les familles viennent très tôt, parce que les enfants en tiennent moins dans la journée, ce qui est logique.
Rappelle-nous, Fantasyland, c'est quelle partie du parc ça?
Les châteaux.
Après le château, effectivement, c'est ça.
D'accord, là où il y a Peter Pan, Pinocchio. Exactement. Etc. Okay. Voilà.
Tout cette partie-là, tu peux le faire parce que globalement, les attractions sont faites pour les enfants, avec une petite exception pour Blanche-Neige et les Sept Nains.
Alors oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est marrant que t'en parles.
Ah ouais, bah, alors cette attraction-là, on l'a fait beaucoup avec nos guests, nos invités. Quelques parties de cette attraction peuvent potentiellement faire peur aux plus jeunes. Mm-hmm.
Alors c'est marrant parce que
je la connais pas du tout, moi, cette attraction, je vois même pas où elle est.
Je crois que t'es assez grande, t'auras pas peur. Okay.
Je me permets de rebondir dessus parce qu'en fait j'y suis allé à Disneyland un jour quand j'étais très petit avec mes parents, et j'ai un très net souvenir de cette attraction qui m'avait fait très peur. Il y a une partie en fait où tu passes avec un wagon dans une espèce de forêt.
C'est ce passage là.
Une forêt hantée. Mais qu'est-ce que j'ai eu peur quand j'étais tout petit.
Ah mais il y a des gens qui crient ou j'ai
Non, du tout. Bon, nous à notre âge, pas du tout, ça va pas du tout nous faire peur. C'est juste qu'en fait ça peut être impressionnant pour les gamins parce que t'as vraiment des arbres hantés, machin, qui tombent, c'est un peu dans le noir, avec des gros yeux. Bah, c'est comme une forêt dans le noir la nuit, donc ça peut être un peu flippant. Mais ça reste pas mal à faire en famille. Bon,
tout dépend. En fait, oui. Je pense que tu dois prendre un peu la température, on va dire, avec les enfants. Si tu vois qu'ils sont assez ok de voir un peu d'horreur. Je mets des grosses guillemets à horreur. Mais du coup, s'ils ont pas vraiment peur, tu peux les envoyer dans Blanche-Neige des Sept Nains. Mais si tu vois qu'ils sont un peu plus craintifs, évidemment, mieux vaut éviter. Moi, je pense que c'est le genre d'attraction que je conseillerais pas avant au moins 6 ans. Si tes enfants ont encore un peu d'énergie, bah, tu peux faire un tour sur les studios. Il y a quelques attractions qui sont faites pour eux aussi, qui sont intéressantes. Tu peux faire Ratatouille, par exemple, pareil, avec aussi une petite retenue si les enfants ont un peu peur du noir, tout ça, mais c'est une attraction qui passe généralement bien. Et par contre, si on prend tout à fait l'inverse, un groupe d'adolescents ou des jeunes adultes ou des adultes qui veulent vraiment faire de l'attraction pure et dure, bah du coup, parc principal, Space Mountain, alors Big Thunder Mountain, que tout le monde appelle le train de la mine.
Ouais.
Voilà.
Qui fait énormément de bruit d'ailleurs.
Qui fait pas mal de bruit, ouais. Bon, après c'est censé être un train un peu fou de mine, hein, donc c'est un peu le but. Mais tu peux faire le train de la mine, partir sur les studios. Sur les studios, il y a des attractions comme la Tour de la Terreur qui sont incroyables, que ce soit au niveau sensation ou au niveau storytelling, l'histoire est géniale.
Ouais.
Et après t'as RC Racer, c'est la voiture en half pipe là qui fait des allers-retours.
Oui, ouais. Qui fait aller-retour un peu comme un bateau pirate.
Oui, plus ou moins. Ouais. C'est encore la seule attraction aujourd'hui, malgré qu'on ait fait, je sais pas, 300 millions de fois chaque attraction, qui me fait encore de l'effet. Réellement.
Ça c'est fou. Et alors, parce qu'il y a quand même pas mal de temps d'attente à Disney. Stratégiquement, si j'ai envie de faire le plus d'attractions possible sur une journée avec les temps d'attente qu'on connaît, il faut que je fasse quoi? Comment je fais? C'est quoi ton plan d'action?
Moi, je partirais sur le fait dès le matin, la majorité des gens s'imaginent que partir sur les studios et passer la moitié de la journée, c'est un bon plan parce que le parc est plus petit, parce qu'ils auront plus de temps l'après-midi, tout ça. Tout le monde pense comme ça. Donc, je dirais, commencer par le parc principal, c'est mieux que de commencer par les studios. Ensuite, tu restes, quand tu vas dans un land, tu sélectionnes où tu veux aller. Si tu veux aller faire Discovery Land et que tu as envie de faire Space Mountain, Buzz, Star Tours par exemple, et ben du coup, tu vas dans ce land et t'y restes. même si t'as une heure d'attente sur une attraction, parce qu'en fait je pense que les gens perdent plus de temps à partir de, bah, comme par exemple Space Mountain, à changer de parc, aller sur Ratatouille par exemple, et revenir plus tard sur le train de la mine, tout ça. Tu perds plus de temps à te balader dans le parc que si tu restes stratégique et que t'attends un petit peu plus longtemps, quoi.
Eh, tu fais bien de le dire, parce que moi c'est typiquement le genre de truc que je fais, à savoir je vais d'un bout à l'autre du parc, je perds du temps. Bah ouais, en plus de ça t'es claqué à la fin de la journée.
Oui,
donc par zone géographique, on fait tout par zone géographique, ouais, et on épuise le truc comme ça.
Pour moi en tout cas, l'ayant pratiqué plusieurs fois, je pense que c'est ce qui est le plus rentable dans ta journée en tout cas.
Et puis alors, la question qui est la question débat que je me pose depuis je sais pas combien d'années avec mes parents, avec mes potes. Tu vas avoir le plus de sensations dans un manège, tu te mets tout à l'avant ou tout à l'arrière?
Alors ça dépend l'attraction.
Comment ça? Comment ça, ça dépend l'attraction?
Ça dépend ce que tu veux faire. Alors imaginons, pour moi, je dirais que la majorité du temps, si tu te mets à l'arrière des attractions rapides, des coasters, t'auras un peu plus de sensations, parce qu'évidemment, comme c'est une sorte d'énergie, disons que t'as une poussée, et ben, tu prendras toujours plus de vitesse à l'arrière qu'à l'avant. Mais par exemple, dans Flight Force,
c'est lequel celui-ci?
L'attraction de campus que je disais tout à l'heure.
Le roller coaster avant.
Voilà, okay. L'ancien Aerosmith. Eh ben, je te dirais, mets-toi à l'avant, non pas pour les sensations, mais je pense que t'as plus la possibilité de voir tout ce qu'il y a autour de toi, donc tout ce qui est décor, tout ça.
Ouais.
Donc je te dirais une fois pour les sensations à l'arrière, une fois à l'avant pour le thème et la magie.
Et ceux qui ont un peu peur, c'est au milieu.
C'est vous sortez et vous allez faire It's a Small World, la maison des poupées, c'est très très bien.
D'ailleurs, voilà. La maison des poupées, ça a réouvert ou pas encore?
Pas encore. Alors j'ai pas la date de la réouverture, mais c'est pas encore.
Ok.
Salut à vous. Et bienvenue sur Voltage, où je vous ai fait ma sélection d'un nouveau meilleur moment de la rédaction de Voltage. Bonne écoute.
Les jeunes seraient-ils réticents à passer le permis de conduire? C'est du moins ce que laisse penser l'étude de référence Parcoto menée par l'Institut Kantar. Les chiffres annoncent que 69% des 18-24 ans ont le permis en 2022, contre 77% en 2002, soit une baisse de 8% en 20 ans. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette baisse. Un coût trop élevé, une prise de conscience environnementale ou encore l'objet voiture qui ne fait plus autant rêver qu'avant. Alors, on est allé poser la question à un spécialiste du permis de conduire.
Bonjour, Bruno Garancher, je suis président de l'association École de conduite française.
Alors Bruno, vous me disiez qu'il fallait être prudent avec les chiffres et surtout qu'il fallait les nuancer selon la zone géographique où se trouvent en fait les conducteurs.
Le recul de l'âge du permis de conduire est très variable suivant les zones géographiques, puisque globalement, si c'est assez vrai dans les zones urbaines où des moyens alternatifs de transport peuvent être utilisés, transport en commun, utilisation du vélo, etc., et des mobilités douces. C'est beaucoup moins vrai dans les zones rurales et dans les villes moyennes, puisque là, la plupart du temps, les jeunes n'ont d'autres moyens que l'accès à l'automobile pour arriver à gérer leurs déplacements du quotidien. Ce qui veut dire que quand on regarde, nous, effectivement, la répartition des âges de passage du permis de conduire, on s'aperçoit que les agences qui sont situées dans ces villes moyennes et dans ces zones rurales restent sur des âges qui sont plus proches de 18 ans, voire qui ont tendance à se rajeunir. Puisque si effectivement on avait vu jusqu'en 2019 apparaître un réel vieillissement, qui était probablement dû aussi au fait que pour les familles, la charge du financement du permis de conduire devenait de plus en plus difficile à supporter, les différentes mesures qui ont été prises de façon à favoriser le financement par les familles, que ce soit le permis à 1 €, la prise en charge partielle de la formation par les centres de formation d'apprentis pour les jeunes qui sont apprentis, l'utilisation du CPF pour les gens qui ont pu travailler comme apprentis par exemple à partir de 16-17 ans, ou simplement qui ont travaillé en job d'été ou en job d'accompagnement de leurs études, on voit nettement un rajeunissement, et je le répète, hein, surtout sensible dans les zones rurales et villes moyennes.
Alors il y a quand même quelque chose que je note à titre personnel, c'est qu'on remarque que chez les jeunes lycéens, ce n'est plus tellement un objectif comme il pouvait l'être il y a quelques années. C'est-à-dire que avant, c'était comme le bac, c'est-à-dire il fallait passer le bac et puis le permis. Là, on a l'impression qu'il y a un peu un désintéressement, qu'il y a des choses qui font que, bah voilà, le permis ne devient plus réellement obligatoire dans l'état d'esprit des jeunes.
Oui, vous avez raison, mais en fait, c'est pas tellement lié à l'utilisation du véhicule, dans le sens où globalement, les jeunes conviennent sans aucun problème qu'ils ne peuvent pas se passer de l'auto, c'est plutôt lié aux représentations qu'ils ont vis-à-vis de l'automobile. Les générations un peu plus anciennes, entre guillemets, mais il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher très très loin, passer aussi le permis de conduire par rapport à l'aspect social de l'automobile. C'est-à-dire que le permis de conduire, vous le disiez assez bien, faisait partie des rites de passage vers la vie adulte et pouvait aussi correspondre à des représentations individuelles qui faisaient que avoir une automobile, entre guillemets, sa place vis-à-vis des copains, vis-à-vis de la société. Aujourd'hui, ces représentations, effectivement, sont en très très net recul, ce qui est aussi à des effets plutôt positifs, parce que ça veut dire que si on met moins d'affect dans l'automobile, on risque moins de l'utiliser comme objet de représentation et de pouvoir, entre guillemets, ou de frime. Ça génère aussi des comportements qui sont différents sur la route. Mais il n'empêche, et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, que l'auto reste, de toute façon, y compris pour ces jeunes-là, un objet d'obligation, c'est-à-dire que faut bien passer par là, certainement, pour une partie du moins. Sachant qu'il y a encore une partie de la population pour qui accéder à l'automobile est une vraie valorisation. Il y a encore une partie de la population pour qui passer le permis de conduire est accéder pratiquement au seul diplôme qu'ils auront dans leur vie et pour lesquels c'est à représentation forte.
Il y a aussi une évolution dans le choix des formations, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes vont aussi se tourner vers les boîtes automatiques, donc plutôt les voitures, on va dire, électriques, hybrides, et puis même, il y en a qui vont littéralement vers les voitures sans permis, par exemple la dernière, là, de Citroën qui est sortie. Ça, c'est un vrai boom qu'on connaît chez les jeunes.
Comme les représentations vis-à-vis de l'auto sont moins fortes, bah effectivement, on va aller vers des véhicules qui sont moins porteurs de symboles, plus pratiques, plus aisés à conduire et qui correspondent plus aux mobilités dont on a réellement besoin. Donc, vous citiez l'exemple de l'ANI, on pourrait citer globalement l'exemple de l'ensemble des quadricycles, puisqu'on voit que ce marché du quadricycle léger, qu'on a tendance à appeler voiturette, est en plein boom. Effectivement, aussi bien du côté de l'ANI, qui elle a en plus une caractéristique particulière, c'est que c'est un véhicule électrique, donc elle rentre dans le schéma global de ces mobilités douces et moins polluantes, mais on voit aussi les immatriculations assez considérablement augmentées du côté des constructeurs encore thermiques, je pense à LG et Exam par exemple, qui sont les deux constructeurs français importants. L'autre avantage aussi, c'est que ça permet à la famille de donner accès à un véhicule 4 roues plus protecteur, entre guillemets, que le cyclomoteur dès 14 ans. Et puis effectivement, dans cette espèce de continuité où on a commencer déjà à travailler avec un véhicule qui n'avait pas de boîte de vitesse, qui n'avait pas d'embrayage. Ça emmène les jeunes à s'intéresser de plus en plus à la boîte automatique. D'autant plus que les véhicules auxquels vous faisiez référence, c'est-à-dire les électriques et les hybrides, sont tous équipés de boîte automatique pour un certain nombre de raisons. Donc oui, on a un certain nombre de jeunes qui aujourd'hui hésitent très clairement quand ils arrivent à 18 ans pour passer le permis de conduire, entre aller directement sur de l'automatique ou passer par la boîte manuelle, sachant quand même que la boîte automatique les intéresse pour des raisons de facilité, pour des raisons de coût, puisque la durée de la formation sur une boîte auto est amputée pratiquement d'un tiers de sa durée, donc derrière génère des économies de coût sur le permis de conduire.
Et est-ce qu'au-delà du contexte économique, il y a aussi le contexte écologique? C'est-à-dire que, ben voilà, moi j'ai pris conscience que j'avais envie de moins polluer en roulant avec ma voiture, donc je vais me tourner vers ce type de modèle.
Il y a ça, mais les jeunes se projettent aussi dans l'utilisation de leur véhicule en termes de travail. Et ils savent pertinemment que le véhicule qu'ils auront éventuellement à conduire en termes de travail, je pense aux apprentis par exemple, hein, apprentis du bâtiment, les apprentis qui savent que derrière leur métier sera conditionné par le déplacement, ils vont avoir tendance à malgré tout choisir la boîte manuelle parce qu'ils savent que dans les entreprises dans lesquelles ils vont travailler, on n'aura pas forcément de véhicule à boîte automatique. Donc il y a un système d'attirance-répulsion. Alors souvent, ce qu'ils font, et sous notre conseil, c'est qu'ils commencent par la boîte automatique, sachant pertinemment que après 3 mois de permis de conduire, ils peuvent basculer sans avoir d'examen à repasser sur une boîte manuelle, simplement en passant par la formation.
Est-ce que vous auriez quelques chiffres pour illustrer un petit peu, alors déjà, la différence entre passer son permis dans un contexte urbain et dans un contexte rural, mais aussi passer son permis quand on habite Paris, la capitale, et puis quand on habite la province ou même d'une autre grande métropole de France?
Pour ce qui concerne les agences du groupe ECF, l'âge moyen du permis de conduire sur Paris Grande Couronne se situe aujourd'hui à 23 ans et 7 mois. Pour ce qui concerne une ville comme Bordeaux, on est un petit peu en dessous puisqu'on se situe à 22 ans et 2 mois. Et pour le centre-val de Loire, c'est-à-dire des zones comme Tours, comme Blois, on est sur un âge qui, lui, est descendu à 18 ans et 1 mois. Alors, sachant que dans le 18 ans et 1 mois, faut aussi prendre en compte le fait qu'en province, le nombre de jeunes commençant à apprendre à conduire avant 18 ans est nettement plus important puisque c'est dans ces zones-là que la conduite accompagnée est la plus développée. La moyenne nationale, toujours dans les entreprises du groupe ECEF, se situe aujourd'hui à 18 ans et 9 mois.
Donc finalement, on est plutôt sur des âges assez classiques. C'est vraiment sur la façon dont le permis de conduire est passé que les choses évoluent un petit peu.
Oui, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que globalement, zone province, j'ai envie de dire, et Centre-Val de Loire, là-dessus, est complètement représentatif à mon avis. On est sur les zones où les jeunes passent le permis de conduire le plus tôt, à la fois parce que la conduite est accompagnée et la plus représentée. Donc on a des jeunes qui vont passer réellement les épreuves du permis de conduire à 18 ans et un jour, j'ai envie de dire presque. Voire même certains le passent avant 18 ans, puisque la loi le tolère aujourd'hui, avec le droit de conduite, le droit de conduire à 18. Et une région comme Centre-Val de Loire pour l'ECF, c'est plus de 32% des jeunes qui passent leur permis de conduire en conduite accompagnée. Dans les zones urbaines, d'abord parce que les parents, souvent, ont moins accès à un véhicule qui leur permet facilement de faire de la conduite accompagnée pour différentes raisons. Là, effectivement, les jeunes passent de leur propre autorité le permis de conduire. C'est vrai à Bordeaux, un peu moins qu'en région parisienne. Et là, on a des âges qui sont un petit peu plus élevés. C'est-à-dire que les jeunes vont commencer à penser au permis de conduire à partir du moment où ils vont penser insertion dans l'entreprise.
Donc pour vous, tant qu'on n'aura pas développé plus les transports en commun, en fait, le permis de conduire et la voiture plus largement resteront le moyen de transport majeur chez les Français.
Aujourd'hui, de toute façon, les moyens de déplacement autres que la voiture ne sont pas suffisants pour gérer la totalité des déplacements privés et professionnels. Donc ça amène effectivement aujourd'hui toujours les jeunes à s'intéresser au permis de conduire à la voiture. Ce qui va évoluer, s'il y a une évolution à venir à terme, c'est pas le fait d'avoir son permis de conduire et de conduire, c'est le fait de pas avoir nécessairement une voiture en propriété pour l'ensemble de nos usages. Si on se projette, et quand on travaille nous avec Renault qui est notre partenaire, quand on se projette sur l'avenir, c'est plutôt le fait que la voiture risque d'être un objet partagé, la voiture risque d'être un objet vers lequel on investit moins et financièrement et affectivement, mais ça reste encore aujourd'hui l'outil de déplacement le plus utilisé et le plus utilisable pour les déplacements du quotidien dès lors qu'ils ne sont pas couverts par les transports en commun.
Merci Bruno Garancher, président de l'ECF, pour cet éclairage sur les jeunes et le permis de conduire.
C'est bientôt la fin de la nuit sur Voltage. Je vous retrouve demain. D'ici là, passez une bonne journée. Au revoir.
Tu m'attends, puis tu attends que je fasse le pas. On a joué tellement de fois, on y gagne quoi. Aucun ne se lance comme si la peur avait oublié d'avance. Que sinon, ignore, that it's not too late for these temptations. Too late for me to find a reason to stop you. Gazing into my eyes watching you. It's too late for me to read now. It's too late for me to cool you down. Un coup tu m'adores, un coup on s'accorde à faire les sourds. On se ment tour à tour, à quoi on joue. Je veux plus faire d'efforts, l'amour au mur, au pire les remords. Que sinon ignore, that it's not too late for these temptations. Trop tard pour nous trouver des raisons d'apaiser le feu dans nos yeux. Quand on joue ce jeu, c'est trop tard pour nous de renier. Trop tard pour moi de renoncer. Ces tentations, c'est trop tard pour nous trouver des raisons d'apaiser le feu dans nos yeux. Quand on joue ce jeu, c'est trop tard pour nous de relier. Trop tard pour moi de renoncer.